Bienvenue dans Passerelle, un podcast pensé pour éveiller la curiosité des apprenantes et des apprenants de français. Je m'appelle Émilie et cette semaine, comme d'habitude, je vous invite à prendre quelques minutes pour qu'on réfléchisse ensemble à une question. Dans chaque épisode, j'essaye de vous proposer des sujets différents à explorer. Mon but, c'est juste de partager avec vous quelques pistes de réflexion et de vous encourager à vous poser des questions en français. Dans ma dernière newsletter, je vous ai justement posé une question. Vous aimeriez que je parle de quel sujet dans le podcast ? Plusieurs d'entre vous ont demandé des idées de livres à lire et ça tombe bien, c'est un de mes sujets de conversation préférés. Aujourd'hui, on va donc parler de lecture et plus précisément de l'arabe du futur. Pour celles et ceux qui sont pas encore au courant, je publie une newsletter le dernier dimanche de chaque mois. Être au courant, ça veut dire savoir quelque chose ou être informé. Si ça vous intéresse, le lien pour s'inscrire est dans la description de cet épisode. Ce mois-ci, le dernier dimanche de décembre, ça tombe le 25. Comme vous peut-être, ce jour-là, je serai occupée à passer du temps avec ma famille et à fêter Noël. Alors, la dernière newsletter de l'année arrivera avec quelques jours d'avance, je pense. Décembre, c'est pas un mois comme les autres. C'est aussi pour ça que l'épisode de cette semaine et le suivant vont être un petit peu plus courts que d'habitude. Quand les fêtes de fin d'année approchent, on a parfois moins de temps à consacrer à certaines activités, comme l'apprentissage du français, par exemple. En tout cas, je sais pas comment vous vous sentez en ce moment. De mon côté, l'année 2023 s'annonce pleine de surprises, puisque je travaille sur un projet. Un projet dont j'ai hâte de vous parler. Mais avant ça, je vais prendre quelques jours de vacances et je crois que j'en ai bien besoin pour tout vous dire. En attendant, la question que je vous pose cette semaine, c'est la suivante. Quelles sont vos habitudes de lecture ? Ensemble, on va parler d'une bande dessinée qui rencontre un grand succès, l'arabe du futur, mais aussi de l'impact des écrans sur notre capacité à lire avec attention, et enfin, de l'importance de la lecture dans nos vies. Pour commencer, je vais partager avec vous une idée de lecture. L'Arabe du futur, une jeunesse au Moyen-Orient, c'est une série de BD écrites et dessinées par Riyad Satouf. J'ai choisi de vous en parler notamment parce que le sixième tome, autrement dit le sixième volume, vient de sortir il y a quelques jours, le 24 novembre. Et c'est le dernier tome de cette série. Ça raconte l'enfance et l'adolescence de Riyad Satouf. Il est le fils aîné de la famille, sa mère est française et son père est syrien. L'histoire nous emmène de la Libye à la Syrie en passant par la Bretagne. On suit les histoires de cette famille et leurs allers-retours entre la France et le Moyen-Orient. L'Arabe du futur, c'est vraiment un classique aujourd'hui. La BD a été vendue à plus de 3 millions d'exemplaires et traduite en 23 langues. Elle touche un public très diversifié, aussi bien des retraités, des jeunes adultes que des enfants. Dans cet épisode, je veux pas trop vous dévoiler toutes les aventures de la jeunesse de Riyad. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est un récit autobiographique. C'est une histoire qui fait rire, qui raconte à la fois des choses très touchantes et très graves, toujours avec un ton très humoristique. les personnages sont attachants. Riyad est quelqu'un qui se fait plein de films pendant son adolescence. Se faire des films, ça signifie imaginer des choses qui sont fausses. En lisant cette série de BD, on apprend des informations sur le contexte de l'époque, et à côté de ça, on suit Riyad dans ses aventures. Il y a parfois des éléments absurdes dans l'histoire. Tout ça pour dire qu'il y a plusieurs niveaux de lecture dans cette BD. Elle regroupe énormément d'univers et de lecteurs. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles elle connaît un si grand succès, en France et ailleurs. En fait, le personnage de Riyad, c'est quelqu'un qui, comme les jeunes d'aujourd'hui, cherche sa place. Je crois que se chercher, chercher à trouver où est sa place dans ce monde, c'est un sujet qui nous rassemble, une situation à laquelle on peut s'identifier. Le thème de l'enfance et de la jeunesse est un peu un fil conducteur dans le travail de Riyad Satouf. C'est la guerre en Syrie, en 2011, qui va lui donner envie de raconter sa propre histoire. Le premier tome de l'Arabe du futur sort quelques années plus tard, en 2014, une année particulière dans sa carrière. En plus d'être auteur de BD, Riyad Satouf est aussi réalisateur. En 2014, son deuxième film sort au cinéma et il va faire un bide dans les salles. Faire un bide, ça veut dire échouer, rencontrer un échec. Par la suite, il va se concentrer sur la BD. Le premier tome des aventures de Riyad et de sa famille marche très bien. En fait, il remet à la mode un genre qui avait connu un certain succès dans le passé, avec notamment Persepolis de Marjane Satrapi. C'est un autre exemple de ce genre-là, l'autobiographie en BD. Riyad Satouf est un des grands noms de la BD française à notre époque. Avec l'Arabe du futur, son ambition est de faire lire de la bande dessinée à tout le monde. Il y aurait certainement encore plein de choses à ajouter. Je pourrais vous parler de son style de dessin. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il associe une couleur spécifique à chaque pays. Ça participe à créer une ambiance. Il y a tout un jeu visuel d'aller-retour entre les scènes, entre la France et le Moyen-Orient. Riyad Satouf réussit à raconter ses souvenirs avec une grande précision. C'est assez impressionnant. C'est presque comme si on y était, nous aussi. Le succès de cette série de BD vient certainement de son talent de conteur, de sa capacité à fouiller dans sa mémoire et à raconter des anecdotes très précises. La double identité, la double culture, ce sont des sujets qui traversent le récit. L'Arabe du futur raconte la grande histoire à travers une petite histoire, celle de la famille de Riyad Satouf. Mais je vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ou redécouvrir cette lecture. Dans un deuxième temps, on va s'intéresser à l'impact des écrans sur notre capacité à lire avec attention. Quand l'année se termine, j'aime bien prendre un moment pour faire le bilan de mes lectures. Pour certaines personnes, c'est l'occasion de se poser des questions comme « Qu'est-ce que vous avez lu cette année ?» ou encore « Combien de livres vous avez lus ?» pour celles et ceux qui aiment se fixer des objectifs. Dans cet épisode, je vous invite plutôt à réfléchir à vos habitudes de lecture, à comment vous lisez. Est-ce que vous êtes plutôt livre papier ou liseuse électronique? Je vous parle de ça parce que cette semaine, j'ai écouté un podcast passionnant avec une chercheuse en neurosciences américaine qui s'appelle Marianne Wolf. Elle étudie différents modes de lecture. Quand je parle de mode de lecture, je fais référence d'une part aux livres papier et d'autre part aux écrans, comme les smartphones, les tablettes, etc. En observant tout ça, elle a remarqué que, selon le mode de lecture utilisé, la partie de notre cerveau qui est activée n'est pas la même. Elle évoque également une tendance très actuelle, celle de survoler les informations quand on lit quelque chose. Survoler, dans ce contexte, ça signifie lire un texte de façon rapide et superficielle. De mon côté, je préfère quand même le livre papier. Mais en même temps, je me rends compte que pendant ma journée, je passe mon temps à lire des informations sur un écran. Quand je lis un roman, j'ai parfois du mal à rester concentrée. En écoutant cette chercheuse américaine, je peux pas m'empêcher de me questionner sur l'impact des écrans sur nos habitudes de lecture. Je me questionne sur l'impact de ces distractions, sur la qualité et le niveau d'attention qu'on accorde à cette activité. Après, je veux pas tomber dans une diabolisation des écrans. Il n'y a pas de quoi lancer un débat sur la lecture numérique par rapport à celle sur papier. Il n'y a pas de quoi, dans ce contexte, c'est une locution qui veut dire « ça ne sert à rien ». Dans le langage courant, c'est aussi une réponse possible quand quelqu'un vous remercie. Vous savez, quand vous avez rendu un service à une personne et qu'elle vous dit « merci », vous pouvez lui répondre « de rien ». Mais vous pouvez également lui dire « y a pas de quoi ». Bref, la technologie nous offre un potentiel incroyable. C'est certain. Lorsque je vois que sur une liseuse, on peut surligner un mot et accéder à sa définition ou sa traduction, je me dis que cet outil est très pratique, notamment pour les personnes qui apprennent une langue étrangère. Et puis, la technologie nous aide à parcourir une quantité extraordinaire d'informations en peu de temps. Survoler un texte, au lieu de le lire avec attention, devient un mécanisme de défense. Parce que la quantité d'informations qu'on peut traiter en une journée est limitée. C'est important de considérer la façon dont on lit parce que ça influence la nature de ce qu'on absorbe. Pour dire les choses autrement, nos habitudes de lecture ont une influence directe sur ce qu'on retient d'un livre, d'un article, etc. Ce que Marianne Wolf explique dans ses recherches, c'est que les possibilités que nous offre la technologie sont nombreuses. Par contre, ça a des conséquences. Notre vitesse de lecture augmente, de manière générale. C'est la même chose pour la somme d'informations sur laquelle on se concentre. Les écrans favorisent la capacité de faire plusieurs choses à la fois. Ils sont une source de divertissement. Ils attirent naturellement notre attention. Je ne sais pas si « naturellement » est le mot exact, mais j'imagine que vous comprenez ce que je veux dire. Tout ça prive les gens, dans une certaine mesure, de leur capacité à accéder à une compréhension plus profonde, plus détaillée des idées évoquées dans un texte. La lecture est une activité qui prend du temps, un temps nécessaire pour comprendre d'autres perspectives, pour ressentir les émotions que l'auteur veut éveiller en nous à travers l'histoire qu'il ou elle nous raconte. Avec les quelques minutes qui nous restent, on va revenir sur l'importance de la lecture dans nos vies. Quand je lis un bon roman, ce que j'apprécie, c'est l'état dans lequel je me trouve. C'est une activité qui m'aide à atteindre un état d'immersion et de concentration qui me transporte dans un autre univers. La lecture n'est pas seulement une source de compréhension. Certes, lire, c'est comprendre un texte, une idée, une théorie. Elle est aussi une source de sagesse. En nous révélant d'autres visions du monde, elle nous aide à avoir de l'empathie pour des personnes qui sont dans une situation différente de la nôtre. Dans le podcast que j'ai mentionné un peu plus tôt, la chercheuse interrogée décrit la manière dont notre esprit s'illumine pendant l'enfance, quand nos parents nous lisent une histoire. Notre imagination s'active lorsqu'on est complètement concentré. La lecture éveille quelque chose d'insaisissable et de précieux en nous. En écoutant Marianne Wolfe, j'ai noté une citation qu'elle a mentionnée, une citation du philosophe Aristote. « Tous les livres du monde ne vous apporteront pas le bonheur, mais ils construisent un chemin secret vers votre cœur. » Je dois dire que j'ai pas pu trouver la phrase originale d'Aristote, mais je la partage quand même avec vous parce que j'aime beaucoup l'image qu'elle évoque. Vous aussi, je vous invite à réfléchir à cette question. Pourquoi est-ce que la lecture est importante pour vous? Si ça vous intéresse d'explorer cette question plus en détail, je vous signale que Marcel Proust, vous le connaissez peut-être grâce à son fameux roman « À la recherche du temps perdu », eh bien Marcel Proust a également écrit un texte intitulé « Sur la lecture ». Je ne vais pas citer ce texte, parce que si vous avez déjà essayé de lire « À la recherche du temps perdu », vous savez que Proust a tendance à écrire des phrases à rallonge. Une phrase à rallonge, c'est tout simplement une phrase très longue. Pour lui, le cœur de la lecture, c'est l'endroit où on va au-delà de la sagesse de l'auteur pour découvrir la nôtre, pour découvrir notre propre sagesse. En nous donnant un petit aperçu, la lecture nous incite à découvrir des sites merveilleux, différents du reste du monde. Des personnages dans lesquels on se reconnaît nous touchent profondément, et parfois, bien au-delà des pages d'un livre, leur histoire reste avec nous et marque nos vies. Voilà, c'est tout pour cette semaine. J'espère que cet épisode vous aura intéressé. Et comme d'habitude, je vous invite à rejoindre la communauté du podcast sur Patreon. C'est un espace d'échange où je partage des ressources et les transcriptions des épisodes. Pour soutenir le podcast, vous pouvez aussi en parler autour de vous et mettre une note sur Apple Podcasts et Spotify. Si vous avez écouté l'épisode jusqu'à la fin, n'hésitez pas à m'écrire pour partager vos réflexions avec moi. En attendant, je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter aujourd'hui et je vous donne rendez-vous bientôt pour le prochain épisode. À très vite !